Épilogue 20001. Et comme dans toute la galaxie, ils n'avaient rien découvert de plus précieux que l'esprit, ils favorisèrent en tout lieu son apparition. Ils devinrent les fermiers des prairies étoilées. Ils semèrent et parfois ils récoltèrent. Et de temps en temps, sans passion, ils devaient arracher les mauvaises herbes. Il n'y a que les dernières générations d'Européens pour s'être aventurés sur l'autre face de leur monde, loin de la lumière et de la chaleur de leur soleil qui ne se couche jamais, dans les étendues désertes où l'on trouve encore la glace qui jadis recouvrait toute la surface du globe. Il y en a au moins encore qui sont restés affronter la nuit brève mais terrifiante qui survient lorsque le soleil froid, lumineux mais sans pouvoir, disparaît sous l'horizon. Pourtant, ces quelques explorateurs intrépides ont déjà découvert que l'univers qui les entoure est plus étrange qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Leurs yeux si sensibles, qu'ils ont acquis dans les ténèbres océaniques, leur sont toujours utiles et leur permettent de voir les étoiles et les autres corps célestes qui traversent le ciel. Ils ont commencé à jeter les bases de leur astronomie, et quelques penseurs audacieux ont même osé supposer qu'Europe, leur vaste monde, n'est pas la totalité de l'univers. Très vite après être sortis de l'océan, lors de l'évolution explosive à laquelle les avait contraints la fonte des glaces, ils avaient compris que les objets célestes se rangeaient dans trois catégories distinctes. Le Soleil, bien sûr, était le premier de tous. Certaines légendes, rares étaient ceux qui les prenaient au sérieux, affirmaient qu'il n'avait pas toujours été là, qu'il était apparu d'un seul coup, annonçant une brève période de cataclysme et de transformation pendant laquelle une grande partie de la vie sur Europe avait été détruite. Si ces légendes disaient vrai, ce n'était qu'un faible tribut à payer en contrepartie des bénéfices versés par la minuscule mais inépuisable source d'énergie qui trônait, immuable, dans le ciel. Peut-être le soleil froid, si lointain, était-il son frère, banni pour quelques crimes, et condamné à parcourir éternellement l'espace désolé. C'était sans importance, sauf pour ces quelques Européens qui ne cessaient de poser des questions sur ce que tous les individus sensés considéraient comme allant de soi. On devait admettre pourtant que ces originaux avaient fait quelques découvertes intéressantes lors de leurs excursions dans les ténèbres de l'autre côté du monde. Ils affirmaient même, bien que ce fût difficile à croire, que le ciel y était entièrement saupoudré d'une myriade de petites lumières encore plus faibles et ténues que le soleil froid, chacune d'un éclat différent et ne changeant jamais de place. Sur cette toile de fond se trouvaient trois objets qui, par contre, se déplaçaient et obéissaient apparemment à des lois complexes que nul n'avait encore pu élucider. De plus, contrairement aux autres objets célestes, ils étaient de fort grande taille, quoique leur forme et leur dimension varient sans cesse. C'étaient parfois des disques ou des demi-cercles ou encore de minces croissants. À l'évidence, ils étaient plus proches que tous les autres corps célestes, car on voyait à leur surface grande abondance de détails complexes et changeants. La théorie suivant laquelle il existait effectivement d'autres mondes avait fini par être acceptée, bien que nul, excepté quelques fanatiques, ne crut qu'il puisse être de loin aussi grand ou aussi important qu'Europe. L'un se trouvait près du soleil dans un état de bouleversement continuel. On apercevait sur sa face nocturne la lueur d'immenses brasiers, phénomène qui dépassait encore l'entendement des Européens, car leur atmosphère, jusqu'à présent, ne contenait pas d'oxygène. Parfois aussi, de puissantes explosions projetaient des débris au-dessus de ce monde, s'il s'agissait d'un monde véritable, montrant ce que devait être un endroit fort désagréable à vivre. Pis peut-être que la face nocturne d'Europe. Les deux sphères extérieures, et plus lointaines, ne semblent pas être en proie à une telle violence, mais sont d'une certaine façon encore plus mystérieuses. Lorsque la nuit les recouvre, elles aussi exhibent des taches de lumière très différentes néanmoins des flammes rapides et turbulentes du monde extérieur. Celles-là brûlent d'un éclat presque régulier et sont concentrées dans certaines régions, lesquelles, pourtant, au cours des générations, ont grandi et se sont multipliées. Plus étranges encore sont ces foyers lumineux, aussi brillants que de petits soleils, qu'on peut souvent voir se déplacer dans l'obscurité qui sépare ces mondes les uns des autres. Jadis, se rappelant la bioluminescence de leurs océans, les Européens avaient supposé que ce pourraient être en vérité des créatures vivantes. Mais leur éclat rend cette idée presque incroyable. Néanmoins, des penseurs de plus en plus nombreux estiment que ces lumières, celles qui sont fixes ainsi que les soleils mobiles, sont d'étranges manifestations d'une forme de vie inconnue. Un argument de taille, pourtant, s'oppose à cette conception. Si ce sont des choses vivantes, pourquoi ne viennent-elles jamais sur Europe? Mais il y a d'autres légendes. Il y a de cela plusieurs milliers de générations, peu après la conquête de la terre ferme, on dit que certaines de ces lumières s'approchèrent effectivement de fort près, mais explosèrent chaque fois, inondant le ciel d'une lueur qui éclipsait celle du soleil. Puis d'étranges fragments métalliques étaient tombés en pluie sur le sol d'Europe, dont certains sont encore adorés à ce jour. Aucun néanmoins n'est vénéré à l'égal du monolithe noir, gigantesque, qui se dresse à la frontière de la nuit éternelle. Une face à jamais tournée vers le soleil immobile, l'autre vers le pays des ténèbres. 10 fois plus haut que le plus grand des Européens, même en comptant les plus longs de ses tentacules, c'est le symbole même du mystère, de l'inaccessible. Car on ne l'a jamais touché et on ne peut l'adorer que de loin. Il est entouré par le cercle du pouvoir qui repousse tous ceux qui cherchent à s'approcher. Beaucoup croient que ce même pouvoir est la force qui empêche d'approcher les lumières mobiles dont le ciel est peuplé. Qu'ils viennent à manquer et ces astres descendront sur les continents vierges et les océans mouvants d'Europe, révélant enfin le sens de leur existence. Les Européens seraient surpris de savoir avec quelle curiosité intense et quelle fascination les esprits qui gouvernent les lumières mobiles étudient ce même monolithe. Leurs sondes automatiques, depuis des siècles, tentent inlassablement de quitter leur orbite et d'atterrir, avec chaque fois, le même résultat désastreux. Car tant que le temps ne sera pas venu, le monolithe ne permettra aucun contact. Quand ce temps viendra, lorsque peut-être les Européens auront inventé la radio et découvert les messages qui les bombardent sans arrêt de si près, le monolithe pourra changer de stratégie. Il pourra ou non choisir de libérer les entités qui sommeillent en son sein afin qu'elles comblent le gouffre séparant les Européens des êtres à qui, jadis, ils devaient allégeance. Et il se peut que ce gouffre soit impossible à combler, que deux formes de conscience si étrangères l'une à l'autre soient incapables de coexister. S'il en est ainsi, l'une d'elles seule héritera du système solaire. Laquelle ? Les dieux même l'ignorent, pour l'instant. Remerciements. Ma gratitude, bien sûr, est d'abord due à Stanley Kubrick, qui m'écrivit il y a longtemps pour me demander si j'avais quelque idée à propos du légendaire bon film de science-fiction. Ensuite, je remercie mon agent et ami, les deux ne vont pas toujours ensemble, d'avoir vu qu'un synopsis de 10 pages, que je lui avais soumis comme un simple exercice intellectuel, avait d'immenses possibilités, que je le devais à la postérité, etc. Je dois également remercier le Seigneur Jorge Luis Calife de Rio de Janeiro pour une lettre qui m'a fait prendre au sérieux le projet d'une suite à 2001, alors que je disais depuis 6 ans que c'était évidemment impossible. Le docteur Bruce Murray, directeur du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, et le docteur Frank Jordan, lui aussi du JPL, pour avoir calculé le premier point de Lagrange dans le système Io Jupiter. Assez curieusement, j'avais fait des calculs analogues 34 ans plus tôt pour les points de Lagrange collinéaires du système Terre-Lune. Orbite stationnaire, Journal of British Astronomical Association, décembre 1947. Mais je doute maintenant de pouvoir résoudre les équations quintiques, même avec l'aide de Hall Jr., mon fidèle HP 9100A. La New American Library, propriétaire du copyright de 2001 Odyssée de l'espace, pour m'avoir autorisé à reproduire les citations du chapitre 51, chapitre 37 de 2001, l'Odyssée de l'espace, ainsi que celles des chapitres 30 et 40. Le général Potter, du corps des ingénieurs de l'armée US, pour avoir trouvé le temps, malgré ses nombreuses activités, de me faire visiter Epcot en 1969, alors qu'il n'y avait encore que quelques grands trous dans la Terre. Mon vieil ami Fred Durand, ancien directeur adjoint de l'astronautique du Smithsonian National Air and Space Museum, pour m'avoir appris que le tableau de Leonov décrit dans la préface de l'auteur, ainsi qu'au chapitre 12, appartient maintenant à la magnifique collection d'art du NASM. Je présume que le musée serait disposé à autoriser un prêt temporaire en l'an 2010. Wendell Salomons, pour m'avoir aidé en russe et en anglais. Jean-Michel Jarre, Vangelis et l'incomparable John Williams pour m'avoir inspiré chaque fois que j'en avais eu besoin. En écrivant ce livre, j'ai découvert que l'idée du ravitaillement sur Europe avait été étudiée dans un article « Outer Planet Satellite Returns Missions During In-Situ Propellant Production » par H, Stankaty, Niehoff et Kuda. Acta Astronautica 7-5S, mai-juin 1981. L'idée des systèmes exponentiels automatiques, les machines de von Neumann, ont été sérieusement développées par von Tissehausen et Darbrough au Centre de vol spatial de la NASA, Marshall. Voir Self-Replicating Systems, NASA Technical Memorandum 78304. Si quelqu'un doute de la capacité de systèmes analogues à venir à bout de Jupiter, je les renvoie à l'étude démontrant comment les usines autoreproductrices pourraient réduire la durée de construction d'un collecteur d'énergie solaire de 60 000 ans à seulement 20 ans. L'idée surprenante, selon laquelle les géantes gazeuses pourraient avoir un noyau en diamant, a été avancée sérieusement par M. Rose et F. Rie, du Lawrence Livermore Laboratory, Université de Californie, dans le cas d'Uranus et de Neptune. Selon moi, si ces planètes en sont capables, Jupiter peut encore mieux faire. Actionnaire de la De Beers, prenez note. Pour d'autres détails sur les formes de vie aérienne qui pourraient exister dans l'atmosphère jovienne, voir ma nouvelle « Une rencontre avec Méduse » dans « The Wind from the Sun ». Des créatures de ce genre ont été merveilleusement décrites par Adolf Schaller dans la deuxième partie de Cosmos, par Carl Sagan, One Voice in the Cosmic Fugue, le livre et la série d'émissions TV. L'idée fascinante suivant laquelle il pourrait y avoir de la vie sur Europe, dans des océans recouverts de glace et maintenus à l'état liquide par les marées gravitationnelles provoquées par Jupiter et qui réchauffent aussi Io, a d'abord été avancée par Richard C. Hoagland dans le magazine Star and Sky, L'énigme d'Europe, janvier 1980. Cette brillante intuition a été prise au sérieux par nombre d'astronomes, notamment le Dr Robert Jastrow de l'Institut d'études spatiales de la NASA, et peut fournir un des meilleurs objectifs pour la mission Galileo actuellement projetée. Et finalement, pour Valérie et Hector, qui ont fourni le système de maintien de la vie, Sheren, qui a ponctué chaque chapitre de baisers poisseux. Steve, pour avoir été là. Colombo, Sri Lanka, juillet 1981, mars 1982. Ce livre a été écrit sur un micro-ordinateur Archives 3 avec un logiciel WordStar et envoyé de Colombo à New York sous forme d'une disquette de 12 cm. Les corrections de dernière minute ont été transmises par la station terrestre de Paducah et le satellite Intelsat 5 de l'océan Indien. Vous venez d'écouter 2010 Odyssée 2 de Arthur C. Clarke, traduit de l'anglais par Pierre Allien, lu par Mathieu Dahan. Une production d'Audible Studio.
Merci et à bientôt chez Audible.